Ce que je voudrais dire, c'est qu'à l'origine de cette entreprise, il y avait sans doute quelques paris risqués, quelques pieds de nez. D'abord, il y avait l'idée de prendre pour thème un objet massif du monde contemporain et de faire la preuve que l'ethnologie, armée de ses concepts, de ses méthodes, pouvait contribuer à en décaper les significations. Il y avait aussi l'idée d'aborder l'étude du monde contemporain, non pas en fonction des rubriques prédécoupées par notre discipline, la production, la parenté, le pouvoir, la religion, mais en se laissant guider par les injonctions sensibles venues du terrain, par des situations d'effervescence qui entraînent les uns vers des stades, les autres ou les mêmes vers des concerts de rock, d'autres vers des expositions de peinture, des floralies, des concours de chiens, des parties de chasse, des concentrations de motards. Chacun de ces engouements appelant évidemment une attention particulière. Et la question que je me suis posée, c'était de savoir ce que cherchaient à mettre en forme ces passionnés, quelle était, au-delà de l'effervescence sensible, l'armature intelligible de ces engouements. Troisième pari ou pied de nez, prendre pour thème un objet bas de gamme, paré de très peu de légitimité académique, et montrer qu'une société peut révéler beaucoup d'elle-même à travers des aspects réputés triviaux et futiles par les gens sérieux. Je n'oublie pas que quand j'ai entrepris cette recherche, avec l'aide et le soutien qui ne s'est jamais démenti de la mission du patrimoine ethnologique, un député s'émut que l'on pût attribuer des crédits pour étudier un sujet aussi trivial et formula une question parlementaire où il exprimait agacement et courroux. Je n'oublie pas non plus que plus tard, cette recherche a été régulièrement prise comme cible par la direction du patrimoine du ministère de la Culture, dénonçant non pas la qualité des travaux, mais leur incongruité dans le champ du patrimoine. Mais pourquoi alors le château, le lavoir, mériterait-il une considération patrimoniale et pas le stade? La condamnation est d'autant plus paradoxale qu'elle ne s'applique plus dès que la recherche prend pour objet le stade ou l'hippodrome d'hier, dont elle essaie alors et au prix d'immenses efforts de reconstituer la vie, l'atmosphère, les significations de la ferveur dont ces monuments étaient le théâtre. Faut-il décidément attendre que la patine du temps ait fait son œuvre, la mort des témoins, pour prendre au sérieux un objet et les paroles qui l'entourent? Alors l'intérêt que le jury a bien voulu prendre à la lecture de ce livre montre peut-être que ces paris n'étaient pas complètement insensés. Le chemin ne fut pas pour autant facile et l'enquête a buté sur une multitude d'obstacles. Parmi ces obstacles, j'en distinguerai deux types. D'abord, des interprétations préexistantes. Vous disiez, je crois, que j'avais fait preuve de malice parfois vis-à-vis d'interprétations préexistantes sur l'engouement pour le football. Mais au fond, davantage que de malice, c'est peut-être de vérifier les choses à l'épreuve des faits. Et il y a eu l'impression qu'un certain nombre d'interprétations répandues sur l'engouement pour le football menaient vers de fausses pistes. Et puis, il y a eu des difficultés liées à l'objet même de l'enquête. Alors, parmi les interprétations dont nous ne retrouvions pas la confirmation sur le terrain, et un terrain qui a été en effet particulièrement long, c'est celle qui invitait à considérer les pratiques et surtout les spectacles sportifs, comme le match de football, comme des moyens de détournement d'une vision claire des grands problèmes de l'existence individuelle et collective. Alors, je ne pense pas avoir dit que le football était... Je crois que c'est vous qui me disiez ça tout à l'heure, libérateur de quoi que ce soit. Je ne crois pas non plus que ce soit simplement un moyen de détourner les gens d'importants problèmes qui les taraudraient. Et au fond, quand on examine l'histoire de ce sport, on s'aperçoit qu'il a pu être aussi bien un moyen, en effet, de détourner les masses qu'un moyen de les mobiliser ou d'affiner ou d'orienter leurs contestations. Et plutôt même que de prendre de grands exemples dans l'histoire, il y en aurait beaucoup, et notamment, vous citiez en effet les premières manifestations contre la dictature militaire en Argentine, qui sont venues des stades, et très souvent viennent des stades un certain nombre de slogans et de manifestations dans des pays où d'autres formes d'expression politique ne sont pas permises. Mais je citerai plutôt le cas du journal Napolissimo, qui est le journal édité par les jeunes ultras du commando du virage B de la Curva B à Naples, qui est un journal diffusé à 10 000 exemplaires. Et dans ce journal, ces jeunes supporters jusqu'au boutistes traitent autant des exploits des vedettes de l'équipe, de l'injustice bien sûr des arbitres, qui est toujours défavorable aux nôtres, que des problèmes sociaux de la ville. Et donc là, on n'a pas du tout l'impression d'une sorte d'opium, mais au contraire, à l'occasion, non pas à cause, mais à l'occasion de cet engouement pour les matchs de football, s'expriment des revendications qui montrent que ce sport, qui a pu être utilisé par les puissants, a pu aussi être un révélateur, un vecteur de revendications d'une autre nature. Et au fond, quand on tente de cerner les fonctions latentes des spectacles sportifs et du match de football, ce qu'on découvre, c'est des processus à plusieurs sens, contradictoires, et qui sont rétifs à toute interprétation univoque. La deuxième piste, à mon sens trop étroite, qui encombre une recherche sur le spectacle sportif, c'est celle tracée par la psychologie des foules, qui pose que les comportements en masse seraient marqués du sceau de la régression, que l'animal social romprait sa laisse pour se fondre dans une meute où chacun se sentirait emporté sans résistance possible dans la conviction de tous. Alors il est bien vrai, et pour qui a franchi le dernier escalier, la dernière marche d'un gradin et prend tout à coup conscience de la foule bariolée qui l'entoure, il est bien vrai que l'affoulement, le comportement en foule, affranchit les règles de la vie ordinaire, favorise l'expression de valeurs qui sont proscrites dans le quotidien et actualise un sentiment de communauté qui est défait dans la vie de tous les jours. Mais par ailleurs, on ne conclura pas pour autant, sur la base de ces notations, que le public des stades forme une masse invertébrée, unanime et anonyme, où la conscience se dissiperait dans la joie festive d'être ensemble et dans une mobilisation consensuelle contre l'adversaire. L'analyse de l'intérieur nuance, voire dément, ce que suggère cette vision un peu superficielle par sa forme en rectangle ou en anneau, où s'inscrivent et s'affichent les hiérarchies des virages situés derrière les buts aux tribunes centrales. Le stade s'offre en fait comme un des rares espaces où une société, à l'échelle des temps modernes, se donne une image sensible, certes, de son unité, mais aussi des contrastes, des différences qui la façonnent. Et ces cloisonnements entre les virages, les tribunes, etc., n'échappent pas du tout à la sagacité des supporters. Et il arrive que ceux des virages, souvent de jeunes militants démonstratifs et enthousiastes de la cause de leur club, conspuent ceux des tribunes, qui soutiennent pourtant la même équipe, dont ils jugent les manifestations de soutien trop réservées et guindées. Et d'ailleurs, quand on examine les associations de supporters, ça n'est pas une foule unanime auquel on a affaire, mais c'est à une foule, à une société de clubs de supporters extrêmement différenciés, contrastés, se livrant à une rivalité continue pour assurer leur propre hégémonie d'un des leurs dans le club, c'est-à-dire chaque club s'affronte à l'autre pour être le porte-parole légitime de la cause du club, et tout ça une sanction spatiale. Par exemple, en Italie et maintenant en France, les clubs de supporters de jeunes les plus importants sont situés au centre des virages, et ceux qui commencent sont situés en marge des virages, sans parler des vieilles gardes, de la vecchia guardia en Italie, c'est-à-dire les retraités du supporterisme, qui occupent une place un peu marginale dans le virage. Bref, il y a là une société de clubs de supporters qui ne forme pas une collectivité unie et harmonieuse, mais au contraire, des clubs qui reflètent chacun un profil social particulier et qui, certes, soutiennent la même équipe, mais se différencient, voire parfois se bagarrent même entre eux, quand tel ou tel groupe a pris la place qui leur semblait leur revenir. Bref, tout cela amène à pondérer très fortement les verdicts sur l'unanimisme du comportement des foules, sur la contagion, la fusion, qui s'opérerait quasi mécaniquement lors de tels rassemblements effervescents. Troisième piste, peut-être aussi trop réductrice, celle qui verrait dans le spectacle sportif une résurgence de comportements archaïques, une poche de sauvagerie au fond, au cœur de la civilisation. Cette troisième voie croise celle de la psychologie des foules et, par exemple, on qualifie dès lors de tribus les groupes de jeunes supporters extrémistes qui s'affublent d'emblèmes et de noms belliqueux et volontiers archaïques, aussi bien les commandos que les zoulous, etc. Mais au fond, rien ne me semble plus malvenu que ce genre de raccourci anthropologiste, puisque une tribu, les ethnologues le savent et tiennent à leur concept, c'est quelque chose qui s'organise sur le principe de l'affiliation, on a un même ancêtre, alors que le groupe de supporters, c'est une bande fluide et éphémère de jeunes partisans à laquelle on adhère, non pas par la naissance, mais par choix volontaire, et qui fonctionne sur le mode du réseau. Alors, sans doute veut-on souligner, en utilisant la métaphore tribale, les comportements guerriers, parfois barbares, l'esprit de corps, les tenues et les rites codifiés au style volontiers archaïsant qu'affichent ces groupes de militants, qui sont peu avares de références hyperboliques. Nul doute en effet qu'un match apparaît comme une bataille ritualisée, dont il convient d'ailleurs de cerner les ressorts symboliques, le thème de la guerre et l'ancrage historique. Mais ce qui frappe tout autant quand on examine de l'intérieur ces groupes, c'est leur attitude profondément moderne, voire avant-gardiste. Ces jeunes passionnés cultivent par exemple un sens très aigu de la spectacularité médiatique, valeur moderne s'il en est. Par exemple, quand on entre dans l'intérieur, dans la chambre d'un supporter, et ça n'est pas triste, on s'aperçoit qu'il collectionne aussi bien les symboles de l'équipe qu'il soutient que les photos et les coupures de presse qui sont consacrées à son groupe. En Italie, ces groupes de supporters organisent des émissions de télévision à leur propre gloire où leurs leaders se mettent en scène avec un art consommé du végétariat. Ce qui fait que le génie, entre guillemets, de ce type de supporterisme a consisté à dédoubler le spectacle sportif en opérant une double métamorphose. De spectateurs passifs, ces jeunes supporters extrémistes se sont promus en acteurs de la représentation, comme y invite le temps présent. Il faut être acteur de son propre destin. De sujets invisibles, puisque très souvent ils mènent une existence anonyme, ils se sont hissés au rang de vedettes spectaculaires de la représentation, y compris à travers la théâtralisation violente de leur adhésion. Rien dans leur mode d'organisation ne connote par ailleurs l'archaïsme. Les grands groupes ultra, en France et en Italie, qui comptent chacun plusieurs milliers de membres, par exemple celui du Virage B à Naples compte 6000 adhérents, fonctionnent comme de petites entreprises performantes, avec leurs dirigeants salariés, leur secrétariat, leur attaché de presse, voire leur archiviste documentaliste chargé de valoriser le patrimoine du club. On est bien loin, là, de l'image conventionnelle de la tribu. Quatrième obstacle, peut-être, sur le chemin de ces passions, un obstacle qui nous viendrait de recherches sociologiques cherchant à établir des correspondances systématiques entre les goûts sportifs et les positions sociales, le statut social des gens. Alors il est bien vrai que les amateurs de boxe et les amateurs de yachting ne sont pas les mêmes. Mais par ailleurs, on se défiera aussi de ces tentatives systématiques de classement, dans la mesure où, de même qu'il y a, nous rappelait Stendhal, différentes façons de manger un œuf à la coque, dans le réfectoire d'un séminaire qui selon lui, était une indication tout à fait précieuse pour connaître les progrès du séminariste dans la vie dévote. De même, il y a mille et une manières de pratiquer ou de regarder une même spécialité sportive. Et on ne peut plus, d'ailleurs, après les enquêtes que nous avons faites dans les différents stades, avancer que le football, comme le soutenait un sociologue, cumule toutes les raisons de repousser les membres de la classe dominante. On voit, au contraire, quand on examine la composition du public, qu'il est extrêmement varié et que, en définitive, il est relativement banal dans sa composition, sauf sur deux points, il regroupe plus de jeunes et il regroupe moins, beaucoup moins de femmes. Mais sur le plan de la composition sociale, c'est un public qui est au diapason de la composition sociale de la cité. À vrai dire, le problème qui se pose, c'est de savoir comment des groupes sociaux distincts qui s'assemblent dans le stade reçoivent un même message, interprètent un même spectacle. Et là, c'est selon des modalités très variées, selon leur itinéraire. Et ce qui est frappant, c'est de voir, quand on s'entretient mois après mois, année après année, avec des supporters d'origines diverses, comment ils ont des visions contrastées de l'équipe, du club, du jeu, des joueurs. Et donc, on a, je ne pense pas que la piste qui consiste à dire telle classe sociale, tel sport soit la bonne. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de voir en définitive comment différents groupes sociaux s'approprient, interprètent un même spectacle. Alors, si ces diverses pistes montrent, à notre sens, leurs limites, est-ce que les méthodes et les concepts de l'ethnologie appliqués à ces spectacles massifs et éphémères, qui sont véritablement, c'était quelqu'un du jury tout à l'heure qui me posait la question, comment vous y êtes-vous pris? C'est vrai que quand on arrive dans un stade pour la première fois, surtout en Italie, où ce sont des foules de 60 000 personnes, voire plus, on se dit c'est impossible. Ce sont des condensés terrifiants de tous les obstacles que rencontre notre discipline quand elle aborde les phénomènes modernes. Et en quoi l'ethnologie peut-elle aborder avec les méthodes qui lui sont propres ces rassemblements massifs et éphémères? L'ethnologue est habitué à scruter de petites collectivités, à cheminer le long de réseaux sociaux dont il peut appréhender la totalité des ramifications. Et évidemment, la première tentation quand on arrive dans un stade et qu'on veut emmener l'étude ethnologique, c'est de se dire surtout pas, j'arrête et je me replie vers un petit club de quartier que je pourrais appréhender dans la totalité de ses dimensions. Ou bien je vais m'arrêter sur un seul groupe de supporters et je vais essayer de scruter cela de façon extrêmement fine. Mais à ce moment-là, j'ai peur qu'on se limite à de petits tableaux de genre, à une sorte de bucolique ethnologique, et que l'on passe à côté des caractéristiques les plus saillantes de nos sociétés et du spectacle sportif aujourd'hui, c'est-à-dire des formes de mobilisation massive à l'échelle de villes et de régions, des mouvements de foule spectaculaires dans cet espace très singulier qu'est le stade, cet espace en anneau ou en rectangle, donc un espace où on voit une pratique, mais où on voit aussi des spectateurs, que l'on passe à côté de l'affirmation d'un sentiment communautaire qui transcende les diversités de quartier, les diversités de profession ou d'origine. Bref, ce qui est apparu, c'est qu'à défaut de pouvoir adapter le grand match de football aux dimensions classiques de l'enquête ethnologique, il fallait bien adapter l'enquête ethnologique aux dimensions du grand match de football. Une enquête menée à échelle multiple, c'est-à-dire avec d'une part une insistance très grande sur l'individu, ou comme unité la plus petite, par des entretiens prolongés, des récits de vie de supporters, qui ont permis de cerner les processus, les modalités selon lesquelles des histoires individuelles se croisent avec celles de villes, de clubs, de compétitions, de matchs. D'où l'importance, en effet, prise par les biographies de partisans. Les stades, ensuite, à une autre échelle, à un deuxième degré, ont fait l'objet d'observations approfondies, tribune par tribune. Et également dans les stades, l'étude des groupes de partisans, des slogans, des emblèmes pour discréditer les autres et encourager les siens, tout cela mettant au jour les règles de fonctionnement d'une foule structurée et en même temps les ressorts de la rhétorique militante et le piment spécifique de ce type de confrontation où l'on entend par ses gestes, par ses paroles, par ses cris, par ses chants, peser sur le déroulement de la confrontation, d'une histoire donc qui, contrairement à ce qui se passe au théâtre ou au cinéma, se construit devant soi. Ça, c'est le deuxième niveau d'analyse, le niveau du stade. Le troisième niveau d'analyse, ça a été l'analyse comparée d'un lieu à l'autre, c'est-à-dire de Marseille à Naples et à Turin, de la composition des équipes, du style de jeu que l'on prise, des formes particulières de supporterisme, ce qui a mis en évidence, à l'échelle locale, à l'échelle d'une ville, les mécanismes d'appropriation de ce qui est aujourd'hui un langage universel, d'appropriation locale d'un langage universel, ce mécanisme de fabrication du singulier à partir du sériel. D'où la comparaison entre Marseille, Naples et Turin, cette dernière ville comportant deux équipes de football, d'ailleurs la Juventus, qui est supportée par un empire industriel, la Fiat, et d'autre part le Torino, le Toro, qui lui est le symbole plutôt de l'autochtonie, des gens du lieu, de la société locale. Quatrième niveau d'analyse, au-delà de cette comparaison proche, la confrontation de ce sport et de jeux de compétition similaires qui se sont épanouis à d'autres époques ou dans d'autres civilisations. Par exemple, la soule médiévale, une pratique extrêmement brutale, ou le folk football anglais, donc autant de pratiques de jeux de balles qui ont préexisté à la codification du football au milieu du XIXe siècle, ou encore les jeux de balles aztèques, par exemple le Tlachtli, qui permettent d'apprécier par contraste les formes et les sens singuliers de l'engouement contemporain et de se poser cette question: pourquoi notre société se passionne-t-elle pour ce genre particulier d'affrontement collectif codifié? Que nous dit le match de football de la gestion des émotions collectives par rapport à ce qui a pu exister à d'autres périodes ou dans d'autres continents? Que nous dit-il du débridement des affects? Que nous dit-il des valeurs partagées dans nos sociétés? Et au fond, c'est ce va-et-vient entre ces divers niveaux d'analyse, du plus petit au plus grand, qui est au principe de la construction de ce livre. Le match est d'abord une histoire, d'où la place accordée dans ce texte à la narration épaisse de trois rencontres qui ouvrent le volume. Une histoire, en effet, qui se croise avec celle d'individus dont portrait et biographie révèlent la diversité des chemins qui mènent vers le stade et le dénivellement des formes d'engouement. À cette ethnographie préliminaire succède l'analyse des mécanismes d'appropriation locale du langage universel qui est aujourd'hui le football, à travers une étude des styles locaux, à travers une étude de la vision du monde particulière que condense ici et là ce jeu profond, à travers l'étude de la morphologie du stade, du public, du fonctionnement des foules, des groupes de partisans, de la rhétorique des supporters et des dimensions rituelles du match de football. Parmi ces hypothèses, il y en a une qui s'est dégagée au fil de l'enquête, à travers les entretiens, les comparaisons, à travers également les derniers événements qui se sont déroulés à Marseille en 93 et 94. Au fond, c'est que si l'on se passionne tant pour cette histoire de pied, de torse, de tête, de but, ça n'est pas seulement en raison de ses propriétés scéniques, de ses ressorts pathétiques ou des identifications qu'elle permet, mais parce que cette histoire-là met à nu, à la façon d'un drame caricatural, l'horizon symbolique majeur de nos sociétés. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur cet aspect-là, dans la mesure où j'avais eu l'occasion d'exposer quelles étaient les propriétés de sens du match de football à travers ce que disaient les gens. Et là, on posait tout à l'heure une question sur la vision du monde. Est-ce que les gens en sont conscients? Alors, je dirais que l'ethnologue, lui, c'est un décodeur. Et à la limite, si les gens étaient entièrement conscients du sens de leurs actions, il n'y aurait plus d'université, du moins il n'y aurait plus d'ethnologie, n'y aurait plus non plus d'ailleurs de psychanalyse ou de sociologie, mais bon, moi je suis ethnologue donc. Et nous, ce que nous faisons, c'est d'essayer de dégager la cohérence de sens à partir souvent de bribes de discours qui ont parfois des. Comportent parfois une marge d'interprétation de leur propre signification ou qui parfois sont plus opaques. Et ça n'est pas par une décision propre à l'analyste, mais c'est par le patient travail de recoupement que l'on parvient à dégager ces complexes de sens qui se trouvent derrière des propos qui peuvent paraître anodins. Si vous voulez, moi, ce qui m'a frappé en discutant derrière les comptoirs, dans les groupes de supporters, pendant les déplacements vers tel ou tel stade, c'était de voir que tout tournait toujours autour de cinq éléments fondamentaux. Et ces cinq éléments fondamentaux, j'ai essayé de les retourner dans tous les sens pour savoir si tout ça avait une cohérence et pouvait expliquer l'engouement extraordinaire que nos contemporains ont pour ce type d'affrontement. Le premier élément, c'est qu'on parlait beaucoup du mérite des joueurs et du mérite individuel de ces joueurs, de ces vedettes. Et que ces vedettes, très souvent, étaient présentées comme des héros de notre temps, c'est-à-dire des gens qui étaient partis de rien et qui étaient arrivés à quelque chose. Et il est vrai que la passion que l'on peut avoir pour un Pelé ou pour un Maradona nous dit beaucoup de choses de notre propre société, d'une société où, théoriquement au moins, le dernier peut devenir le premier. Théoriquement au moins, on sait que dans la pratique c'est beaucoup plus compliqué, mais le football délivre ce genre de message, n'importe qui peut devenir quelqu'un. Mais il ne suffit pas d'avoir du mérite et de faire preuve de ces qualités diverses qui sont mises en jeu par le football. Il faut aussi faire preuve de solidarité, d'esprit d'équipe, de planification collective. Donc il faut du mérite individuel, mais il faut aussi du mérite collectif. Et très souvent, on reproche à tel ou tel joueur d'avoir été trop personnel, d'avoir gardé le ballon, de ne pas avoir appliqué telle ou telle tactique. Alors, du mérite individuel et collectif, mais il faut aussi, dans ce sport, et en particulier dans ce sport, et de ça, les supporters discutent à n'en plus finir, il faut de la chance. Et il est quand même très paradoxal et intéressant que les sociétés se soient données pour aulne de leur confrontation un sport qui se joue avec le pied, avec le torse et avec la tête. Ce qui fait que très souvent, les joueurs ratent des occasions immanquables et que les buts se marquent non pas comme à l'entraînement, par une frappe extrêmement rectiligne, mais au contraire après avoir rebondi sur des dos, des torses, des têtes qui s'entassent dans la surface de vérité, la surface de réparation. Que très souvent, le destin tient à un fil, c'est-à-dire à la forme d'une barre ou encore au fait que le ballon a rebondi sur le poteau alors qu'il aurait très bien pu rebondir vers l'extérieur, mais que là, il a rebondi vers l'intérieur. Il y a donc un discours chez les supporters très fort sur la chance et la manière dont la chance, la fortune, rend compte du succès ou de l'échec. Et très souvent, évidemment, puisqu'être supporter, c'est être partisan, la chance, c'est l'affaire des autres. Et nous, quand nous gagnons, c'est plutôt une affaire de mérite. Mais pour réussir, il ne suffit pas seulement d'avoir du mérite et de la chance, et le football nous en donne la preuve. Il faut parfois aussi savoir céder de la tricherie, puisque aucun autre sport ne donne une latitude plus grande à la tricherie. Il faut savoir, c'est une règle élémentaire, retenir un adversaire par le maillot éventuellement. Et il faut savoir aussi s'effondrer dans la surface de réparation, terrassée par un coup qu'on n'a pas reçu, quand l'occasion se présente. Et puis quand le mérite et la chance ne sont pas suffisants, il faut bien se débrouiller avec les moyens du bord. Mérite, chance, tricherie, mais également, et là il y a quelque chose de grave qui se joue, c'est la justice. La justice au football revêtant un aspect tout à fait intéressant, qui est qu'un individu doit immédiatement décider si une faute est intentionnelle ou pas. Une main, par exemple, est-elle intentionnelle ou pas? Et de cela, on sait, peut dépendre l'issue d'un match. Bref, on a là réuni, sous une forme dramatique, les éléments de la réussite dans le monde contemporain. Pour réussir, au fond, il faut du mérite, il faut de la solidarité, on ne peut pas s'en sortir seul. Il faut de la chance. Il faut savoir parfois tricher un petit peu, quand on ne peut pas faire autrement. Et puis, il faut également une justice favorable. Et à partir de là, le football apparaît comme un jeu profond, où quand on prend les commentaires des spectateurs, ce qui est très frappant, c'est de voir que tout cela tourne toujours autour de ces éléments, et qu'en définitive, le football campe un monde qui est discutable, dont on peut discuter. On peut discuter de l'échec et du succès. On peut se dire que le succès est mérité, on peut se dire que l'échec est injuste. On est donc encore dans un monde où chacun n'est pas individu ou collectivité, n'est pas assuré à 100% d'occuper à juste titre son rang, ce qui au fond est une vision assez humaine du destin, parce que le jour où chacun aurait la certitude d'occuper à juste titre son rang, eh bien ce jour-là on serait dans une société entièrement transparente et peut-être entièrement aussi totalitaire. Alors, ça c'est une des leçons saisies à travers les discours des supporters, leurs commentaires. Une autre leçon, évidemment, c'est la place importante des identités collectives, puisque ça c'est plus banal de l'avancer. Le football s'offre comme un terrain privilégié à l'affirmation des identités, des antagonismes locaux, régionaux ou nationaux, et qu'il y a évidemment là une capacité mobilisatrice et démonstrative particulière attachée à ce sport. Peut-être, et là non plus je n'y reviendrai pas longuement, y a-t-il deux aspects qu'il faut souligner et qui sont assez étonnants, c'est de voir comment dans un monde très marchandisé et internationalisé demeure un attachement, alors que les joueurs se renouvellent, au style local. Et cette catégorie du style nous a beaucoup préoccupés parce que, au fond, les supporters marquent leur attachement à une manière qui est celle de la collectivité, au moins dans les grands clubs comme ceux qui ont été étudiés, Marseille, Naples ou les deux clubs de Turin. Turin, la Juventus de Turin, c'est un club qui est marqué, modelé par une éthique industrielle, par un sens du sérieux. La devise du club, ce sont les 3 S, sérieux, sobriété, simplicité. C'est un club où il n'y a jamais de scandale, c'est la vieille dame aristocratique, c'est la madama, c'est un style fait de rigueur à l'image de l'austère culture industrielle dont le club est l'émanation. À l'inverse, à Marseille, on valorise le panache, l'efficacité spectaculaire, le numéro, autant de stéréotypes où on se plaît à se reconnaître et qui illustrent la devise du club « droit au but ». Donc, ce qui est frappant, c'est que ces clubs qui consacrent sur un mode plus ou moins virulent les allégeances territoriales et en particulier les loyautés locales, nationales ou nationalitaires, le football ne classe pas seulement ses appartenances, il en énonce le contenu imaginaire, chaque grande équipe fabriquant du singulier à partir de l'universel. Et pour les jeunes supporters, au fond, découvrir le style de jeu de son équipe, c'est une forme d'éducation sentimentale aux valeurs qui façonnent sa ville ou sa région. L'autre problème d'ailleurs que pose cet attachement fort à ces clubs de football, c'est un des paradoxes de notre fin de siècle, c'est-à-dire qu'au fond, jamais un Marseillais n'a ressemblé autant à un Parisien, ou jamais un Napolitain n'a ressemblé autant à un Turinois. Jamais pourtant, peut-être, au moins à l'époque contemporaine, ils ne se sont sentis aussi différents. Et là, on a véritablement un moyen, à travers le football et l'analyse des sentiments d'appartenance à travers le football, de constater ce paradoxe. Cet étiolement des différences objectives entre les groupes, les régions, les peuples, et d'autre part le renforcement de ces sentiments d'appartenance qui sont bien une marque de cette fin de siècle. Alors, autre expression de cette identité collective, c'est la composition de l'équipe. Et là, c'est un trait aussi qui est intéressant, c'est parce qu'on peut se dire, bon, c'est un grand marché en définitive, tout ça, ça fonctionne uniquement en fonction de la qualité des joueurs et des ressources des clubs. C'est un petit peu plus compliqué. Bon, quand on examine la composition de ces équipes, de voir que très souvent ce sont des expressions, des images, des métaphores de l'identité de la ville. Pour ceux qui se sont intéressés au football pendant les 50 dernières années, il y a eu trois grands clubs en France. Il y a eu Reims, il y a eu Saint-Étienne et il y a eu l'Olympique de Marseille. Bon, peut-être progressivement le Paris Saint-Germain, mais laissons-le de côté pour le moment. Ce qui est frappant, c'est si on compare par exemple le nombre d'étrangers dans chacune de ces équipes, on s'aperçoit qu'à Reims, il y avait 7% d'étrangers, à Saint-Étienne, 12%, et à Marseille, 18%. Autrement dit, l'équipe s'offre un peu comme la parabole d'un destin collectif. On sait que Marseille a été marquée par de puissants mouvements migratoires, et à Marseille, les joueurs que l'on apprécie surtout sont les vedettes étrangères, précisément, qui sont un peu porteurs de cette image du cosmopolitisme idéal de la ville, qui s'accompagne, ce cosmopolitisme idéal de la ville, d'un dénigrement du dernier étranger venu, surtout s'il est pauvre. Bref, l'équipe... Alors, l'exemple de la Juventus de Turin est aussi extraordinaire, puisqu'on a de très grands joueurs internationaux qui sont un peu à l'image de la Fiat, d'un rayonnement universel. Quand Platini était à Turin, c'était au début de l'enquête, les gens prenaient le soin de prononcer Platini à la française pour bien montrer que c'était un joueur qui venait de loin, qui était prestigieux, etc. Et à côté de ça, on a des joueurs du Mezzogiorno, donc du sud de l'Italie, à l'image de ces ouvriers qui sont venus dans la capitale piémontaise pour essayer de trouver un destin plus favorable. Mais ce que je voudrais dire, c'est que cette affirmation bruyante et partisane d'une identité dont les stades sont le théâtre n'épuise pas les significations de cet engouement et de ces démonstrations belliqueuses. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que... Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre parce que c'est souvent les choses simples qu'on comprend le plus tardivement. C'est que un match de football ne peut être intéressant que si l'on est partisan. C'est même pas la peine parfois d'invoquer le nationalisme ou le régionalisme ou le localisme. C'est qu'il est absolument nécessaire de prendre parti pour un camp pour que ça devienne intéressant. Faute de quoi... on verra quelque chose de beau, de très... Il y avait tout à l'heure quelqu'un dans la salle qui me disait « C'est la beauté du jeu qui me plaît ». Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand on ne passe pas du « il » au « nous », quand on ne s'identifie pas à une classe de personnages, eh bien, à ce moment-là, on va admirer le match de football un peu comme on l'admire, merci, un nu artistique. On dira « Ah, c'est très beau ». Mais on n'aura pas l'émotion que suscite le sujet réel. Et ce qui apparaît, c'est que la partisanerie est la condition nécessaire de la plénitude des émotions. Or, une des quêtes majeures de la participation à ce type de spectacle, c'est précisément la plénitude émotionnelle. Par ailleurs, le stade est un des rares espaces de débridement toléré des émotions. Et un espace, disait le grand sociologue Norbert Elias, de décontrôlement contrôlé des émotions, qui est une sorte de contrepoint à la retenue et au frein qu'impose dans les interactions sociales ordinaires, dans notre quotidien, la civilisation des mœurs. Là s'éprouve le plaisir des gestes et des paroles à la limite de la règle. Là est la seule, sinon dans l'intimité, les gros mots ont droit de citer. Là s'expriment encore des valeurs dont l'expression est socialement proscrite dans le quotidien, affirmer crûment son appartenance sexuelle, son aversion pour l'autre. Ce langage, à vrai dire, qui est pétri de métaphores viriles, guerrières, sacrificielles, d'expressions xénophobes, est profondément ambigu. Et d'une part, et là aussi j'ai mis du temps à comprendre ça, ce langage, bien évidemment, dans cet espace où le débridement est autorisé, nous dit les peurs, les haines, les symboles qui travaillent le corps social. De l'autre, le caractère outrancier de ce langage participe de la nature oppositive de la confrontation. tout ce qui peut choquer l'autre, souligner le soutien extrême que l'on porte au sien, contrarier les rivaux et mis à profit. Autrement dit, les ressorts du langage du supporterisme, ce langage qui, disait un chroniqueur anglais au début du siècle, dont l'écho même blesserait les oreilles d'une dame, les ressorts de ce langage sont à chercher à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de la logique du jeu. Je voudrais prendre un exemple grave de cette ambiguïté. Quand les supporters milanais traitent les Napolitains d'Africains et brandissent de grandes banderoles « Benvenuti in Italia »,« Bienvenue en Italie » quand les Napolitains viennent jouer à Milan. L'insulte n'est pas anodine et témoigne de la crispation de l'antagonisme entre le nord et le sud de l'Italie, dont témoignent entre autres les succès récents des ligues en Italie du Nord. Mais, pour prendre la portée réelle de ces stigmatisations, il faut se rappeler que ces mêmes Milanais qui manifestent de la xénophobie en traitant les Napolitains d'Africains soutinrent, lors du Mondial et de 90, l'équipe du Cameroun contre celle d'Argentine, qui comptait dans ses rangs un joueur napolitain, en l'occurrence Maradona. Ce qui fait que il serait... Bon, je pourrais prendre l'exemple de Basile Boli également, qui, quand il jouait à Auxerre, était brocardé par les supporters marseillais de façon épouvantable. Et là, le jugement est même moral. Quand il est arrivé à Marseille, c'est devenu au contraire l'idole, celui qui chanta lors d'un retour glorieux d'une victoire en Coupe d'Europe, nous sommes les Marseillais devant tout un stade enthousiaste. Ce qui fait qu'il serait aussi fâcheux de décréter l'arbitraire du langage du supporterisme que de lui conférer une plénitude excessive, sauf là où il se donne pour ce qu'il dit, c'est-à-dire dans des groupes de supporters qui affichent une idéologie explicitement xénophobe et conspuent les joueurs étrangers de leur propre équipe. Je voudrais aussi dire rapidement que ce qui se passe dans les stades, c'est une version contemporaine du folklore, avec un moment d'esthétisation de la vie collective où tous les registres de la communication sont mis en œuvre. La voix qui sert à commenter la partie, à prodiguer des encouragements, des insultes, à entonner à l'unisson des slogans rythmés et des chants, les instruments, les tambours, les klaxons, les sifflets, les trompettes, les crécelles qui donnent le tempo des exhortations et de la charge et qui signalent avec emphase les exploits des nôtres et les revers des autres, les postures et les gestes codifiés qui sont parfois figuratifs. Là, je n'imite pas parce que c'est pas très correct, qui exprime la joie, l'enthousiasme, le désarroi, la fidélité ou le malheur que l'on souhaite aux autres, et notamment le mauvais œil en Italie, l'écriture qui a pour support des banderoles ou qui est composée à l'aide de lettres amovibles, le dessin qui caricature les adversaires, embellit et sacralise les héros, le vêtement, la parure, les écharpes, les perruques, le grimage des visages, les accessoires belliqueux, les étendards qui composent un stade aux couleurs du club, tandis que divers emblèmes, tête de mort, masque de diable, cercueil réservé à l'équipe rivale, symbolisent le malheur que l'on souhaite à ses adversaires. Et ce qui est très frappant dans cette culture des stades, c'est ce sens aigu du bricolage où l'on s'arrange avec les moyens du bord pour donner de nouvelles fonctions aux matériaux disponibles. Par exemple, à des assiettes qui vont être transformées en instruments de supporterisme ou encore à des rouleaux de papier hygiénique aux couleurs du club qui seront utilisés pour composer une chorégraphie monocolore. Mais, au fond, il y a là, dans le la foule des stades, cette création culturelle minimale dont on peut discuter la beauté esthétique, mais il faut voir quand même ce qu'est une chorégraphie organisée dans un stade italien avec des chefs chorégraphes qui viennent régler le ballet, un ballet de couleurs où non seulement sont mises en scène les couleurs du club que je supporte, mais également les couleurs des clubs ennemis du club contre lequel mon club est opposé. C'est-à-dire que on se trouve véritablement là dans un système. Il faut bien voir qu'en Italie, les clubs de supporters sont unis. C'est-à-dire qu'il y a deux réseaux de clubs de supporters. Et quand par exemple telle équipe qui appartient à mon réseau vient soutenir son équipe dans ma région, je vais lui prêter main forte. Et si par exemple pour l'équipe voisine, une équipe voisine, si c'est un adversaire des miens qui vient les rencontrer, à ce moment-là, j'irai prêter main forte à cette équipe voisine. Bref, on a là tout un réseau d'amitié et d'inimitié extrêmement structuré. Dernier point que je voudrais signaler rapidement, c'est que le stade est un révélateur extraordinaire de la manière dont fonctionnent nos sociétés. C'est même un des derniers miroirs réels de l'organisation sociale d'une cité, puisqu'on y trouve des groupes de partisans répartis dans les différents coins du stade en fonction de leur quartier, de leur âge, de leur profession. C'est un lieu aussi où l'on peut voir l'émergence depuis une vingtaine d'années de cette classe d'âge très particulière des 15-25 ans, ce qui fait que les espaces situés derrière les buts que l'on appelait jadis les populaires devraient être aujourd'hui rebaptisés les juvéniles. Et il est vrai que l'autonomisation de la jeunesse, avec ses rites spécifiques, est bien un des traits de la période la plus contemporaine. Je ne vais pas vous assommer encore de réflexion générale ou de données particulières. Je voudrais juste conclure en disant que le football, c'est un langage masculin de référence qui aujourd'hui transgresse les régions et les générations, qui fait dialoguer le singulier et l'universel, qui confronte le mérite, la chance, la justice, l'arbitraire, nous et les autres. Et donc, c'est une des matrices symboliques profondes de notre temps. Et que je crois que sous les oripeaux d'un divertissement futile, le match de football jette une lumière crue sur l'essentiel et est devenu d'ailleurs une sorte de modèle de l'action collective, puisque les industriels, les managers, les gouvernants ne s'y trompent pas. Ils multiplient les métaphores sportives et inversent désormais le sens conventionnel des comparaisons. Jadis, on comparait l'équipe à une entreprise. Aujourd'hui, on compare l'entreprise à une équipe. Les perceptions du jeu sont sans doute variables selon les contextes, les lieux, les classes, les groupes, les âges, en raison d'ailleurs de la diversité des qualités que met en scène ce sport, la solidarité, le sens du devoir, la compétition, la discipline, la complicité, la force, la finesse. Mais au-delà de ces inflexions, au-delà de ces mélodies singulières qui se déroulent ici ou là, qui s'entendent ici ou là dans les différents terrains de football, au-delà des modèles contrastés de vie collective, parce que ça peut être l'équipe de foot perçue comme une bande de jeunes, l'équipe de foot perçue comme un bataillon, au-delà donc de ces modèles contrastés de vie collective qu'amalgame dans l'imaginaire l'équipe de foot, le match nous rappelle de façon lancinante, de semaine après semaine, l'incertitude des statuts individuels et collectifs dans le monde contemporain. Les jeux ne sont jamais définitivement faits. Le destin est un éternel recommencement. Et heureusement, en un sens, le succès et l'échec demeurent discutables.